Quel est le secret pour qu'une prière soit efficace? Jacques a écrit que le corps sans l'esprit est un corps mort. Qu'est-ce que l'esprit qui maintient le corps en vie? Nous discuterons ces questions et d'autres encore en continuant notre examen des livres de la Bible. Dans cette émission, nous examinerons l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament. Les programmes d'études de la Bible sont transmis internationalement et vous sont présentés par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, qui publie la revue Aurore, en coopération avec nos amis de partout. Pierre, ainsi que tu l'avais indiqué, notre discussion dans cette émission sera surtout centrée sur l'épître de l'apôtre Jacques. Je remarque que cette épître ou lettre s'adresse aux 12 tribus disséminées. Cela veut-il dire que Jacques écrivit cette lettre pour le bénéfice de la nation juive?
Non, Thomas. La nation d'Israël comprenait naturellement 12 divisions familiales connues comme tribus, descendants des 12 fils de Jacob. Nous ne devons cependant pas supposer que Jacques pensait que sa lettre serait lue par toute la nation juive, car il savait que seule une petite partie de la nation avait accepté Christ comme le Messie, et par conséquent, la nation en général ne s'intéressait pas à une lettre chrétienne.
L'idée est que l'épître était destinée à profiter aux croyants juifs parmi les différentes tribus d'Israël.
C'est bien l'idée, je crois, car l'inspiration de la lettre consistait en exhortation aux chrétiens à penser et à agir sainement.
Je remarque, Pierre, qu'au chapitre 1, verset 5, Jacques écrit « Que si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous libéralement, sans rien reprocher. » Cela veut-il dire que Dieu nous donnera la sagesse dans n'importe quelle voie que nous suivions? Nous n'avons qu'à la demander.
Non, Thomas. L'idée est que Dieu donnera à son peuple la compréhension de sa volonté, lui permettant de savoir comment le servir favorablement. Cette sagesse est décrite au 17e verset du chapitre 3.
Je vais le lire, Pierre. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Eh bien, comme je le vois, la sagesse que nous recevons de Dieu en réponse à la prière est sans égoïsme.
C'est vrai, Thomas, et nous devons nous oublier dans toutes nos prières si nous voulons que Dieu les exauce. Au chapitre 4, verset 3, Jacques dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. »
Autrement dit, si par vos prières vous ne demandez que la réalisation de vos propres désirs égoïstes, elles ne seront pas exaucées.
C'est exact. Le meilleur exemple d'une prière désintéressée, c'est celle que Jésus a apprise à ses disciples. La première requête dans cette prière est « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. »
Mais cependant, Pierre, presque 2000 ans ont passé depuis que cette prière fut enseignée. Elle n'est toujours pas exaucée.
Mais elle le sera, Thomas. La prière ne change pas l'ordre des événements dans le plan de Dieu. Il y a une période déterminée pour l'établissement de son royaume. Et quand le temps voulu arrivera, cette merveilleuse prière chrétienne sera exaucée magnifiquement. Et quel changement sera apporté dans l'expérience humaine, quand la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel?
Il est difficile de se le représenter, Pierre. Je remarque qu'au verset 12 du chapitre 1, Jacques dit « Heureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Qu'est-ce que la couronne de vie?
C'est l'une des promesses spéciales réservées à la classe des appelés de l'âge actuel, ceux qui sont appelés hors du monde pour suivre les traces de Jésus. L'espoir placé devant ceux-ci est que, s'ils sont fidèles en suivant les traces de Jésus jusqu'à la mort, ils recevront à la résurrection un héritage avec lui dans son royaume. Ils vivront et régneront avec lui. La promesse d'une couronne de vie suggère la position royale qu'ils recevront dans leur royaume. Ils atteindront la gloire, l'honneur et l'immortalité.
Pierre, cela a-t-il une relation avec la pensée exprimée au verset 18 qui dit « Il nous a engendrés selon sa propre volonté par la parole de vérité, afin que nous fussions comme les prémices de ses créatures. » Que sont ces prémices?
Tu peux te souvenir que dans la merveilleuse leçon de Paul sur la résurrection, Il explique que les premiers ressuscités d'entre les morts seront ses prémices. C'est l'un des termes employés dans le Nouveau Testament pour décrire la classe de ceux qui maintenant sont appelés hors du monde pour vivre et régner avec Christ dans son royaume. Oui, ce sont ceux à qui sera donnée la couronne de vie.
Le fait qu'ils sont appelés les prémices suggérerait, me semble-t-il, que d'autres seront sauvés et bénis après que cette classe aura été complétée. Est-ce bien ainsi?
Certainement. L'œuvre de Dieu, au cours de la période actuelle, n'est que préparatoire en vue de l'œuvre du royaume millénaire. Car d'après le témoignage de tous les saints prophètes, l'ensemble des humains sera rendu à la vie sur la terre.
Et c'est alors que la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel.
C'est juste.
Pierre, je remarque que Jacques continue ses exhortations à la fidélité chrétienne en disant « Comme un corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Que veut-il dire par l'âme qui maintient le corps en vie? Est-ce l'âme immortelle?
Non, Thomas. Nous avons appris il y a plusieurs semaines que l'expression « âme immortelle » n'existe pas du tout dans la Bible. Le mot grec traduit ici par « âme » ne veut dire que le souffle. En l'employant comme il le fait, Jacques révèle qu'il comprenait entièrement la vérité sur ce sujet, c'est-à-dire qu'il faut l'union du souffle de la vie avec le corps pour avoir la vie.
Et probablement que Jacques avait maintes fois l'affirmation de la Genèse qui dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint ainsi une âme vivante.
Ce qui montre très clairement que l'homme est vraiment une âme, mais qu'il ne possède pas une âme. Jacques a raison quand il dit que le corps sans âme, sans le souffle, est mort.
Pierre, je remarque qu'au chapitre 5 de son épître, Jacques parle prophétiquement, faisant prévoir certaines conditions qui existeront sur la terre dans ce qu'il appelle les derniers jours.
Jacques tire cette expression des derniers jours des prophéties de l'Ancien Testament.
Que sont les derniers jours, Pierre? Non pas la fin de l'expérience humaine, je pense.
Non, Thomas. De façon spéciale, il fait allusion aux derniers jours du règne du péché et de la mort. Le prophète Michée, par exemple, nous dit qu'au dernier jour, le royaume du Seigneur sera établi, et qu'alors les nations transformeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en serpes, qu'elles n'apprendront plus la guerre.
Je remarque que Jacques indique que l'un des signes qui met en évidence les derniers jours serait une accumulation d'argent, et puis il associe les derniers jours avec la venue du Seigneur. Il écrit « Attendez patiemment jusqu'à la présence du Seigneur », et il ajoute « Car la présence du Seigneur est proche ».
Pour tous les croyants fidèles de la première Église, le retour du Christ et l'établissement de son royaume était considéré comme devant apporter la solution de tous les problèmes dans le monde malade et mourant. Il savait que la présence de Christ et de son royaume marquerait le plein accomplissement de tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient prédit au sujet des bénédictions qui seraient dispensées à toutes les familles de la terre.
Et ce fut l'apôtre Pierre qui parla avec force de toutes les merveilleuses promesses de bénédictions contenues dans l'Ancien Testament, quand il exprima son attente des temps de rétablissement de toutes choses.
Oui. Et l'apôtre Pierre, comme Jacques, indiquait que ces promesses de bénédiction atteindraient l'humanité au temps où elles se soumettront à Christ lors de son règne. Ce n'est pas étonnant que Pierre ait exhorté les chrétiens de son temps à être patients jusqu'à la présence du Seigneur.
Mais Pierre, Jacques dit aussi « l'avènement du Seigneur est proche ». Il y a plus de 19 siècles de cela. Jacques n'avait-il pas quelque peu tort en exprimant une telle affirmation?
Non, Thomas, pas vraiment. Par la façon dont nous, humains, comptons le temps, il semblerait que Jacques était un peu trop enthousiaste quant à la proximité du retour de Jésus, mais pas du point de vue du Seigneur. Pour le Seigneur, 1000 ans ne sont que hier, ou comme le prophète le dit, comme une veille de la nuit quand elle est passée. Et après tout, Jacques exprime le point de vue du Seigneur.
Mais n'est-il pas vrai cependant que le peuple du Seigneur, de toutes les périodes, avait pensé que l'âge d'or qui doit venir était beaucoup plus rapproché qu'il ne se montre vraiment?
Oui, Thomas, c'est vrai. Dieu l'a permis pour les encourager. Et pour dire vrai, il a toujours été proche.
Que veux-tu dire, Pierre?
Simplement ceci, que l'âge futur de bénédiction n'a jamais été plus éloigné que la fin de la durée naturelle de la vie humaine. Car lorsque nous nous endormons dans la mort, Notre réveil dans la résurrection se fera quand le royaume du Messie sera établi et qu'il aura pris en main les affaires des hommes, ce qui nous semblera être la seconde suivante. Car, ainsi que la Bible le montre clairement, les morts sont inconscients. Par conséquent, ils ne se rendent pas compte de l'écoulement du temps.
C'est en somme ce qui se passe quand on dort profondément la nuit. Et il est vrai que la Bible compare la mort à un sommeil.
Et non seulement cela, Thomas, mais le retour de Christ et l'établissement de son royaume sont comparés à l'aube d'un matin de joie. Et quel matin splendide, n'est-ce pas ton avis, Thomas?
Oui, Pierre, et c'est ce matin de joie que le monde attend. Ami, il est beaucoup parlé de cette grande espérance dans le petit livre « Espérance et perspective chrétienne ». C'est le 9e d'une série qui passe en revue toute la Bible. Ce 9e livre de la série jette une lumière sur les principaux enseignements trouvés dans les écrits de Jacques, Pierre, Jean et Jude. Vous y trouverez une réponse à des questions telles que celle-ci. Qu'est-ce que l'esprit de vie? Dieu choisit-il certains pour le salut et d'autres pour la prédiction? Que veut dire la Bible par le salut des âmes? Pierre pose la question « Où le pécheur et l'homme sans Dieu paraîtront-ils ?» L'article montre comment Jésus répondit à cette question. Quelle est la fin du monde? De quelle façon la détresse actuelle du monde est-elle liée à la fin du monde? Les vivants peuvent-ils parler avec les morts? Comment savons-nous que les méchants de Sodome et Gomorre auront l'occasion au jour du jugement de se repentir et d'avoir la vie éternelle? Ces questions suggèrent l'étendue de la matière discutée dans le petit livre « Espérance et perspective chrétienne ». Demandez immédiatement un exemplaire gratuit. La brochure vous sera envoyée gratuitement et franco. Cette émission d'études de la Bible vous est offerte par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, qui publie la revue Aurore, en coopération avec les groupes locaux d'études de la Bible. Nous serons avec vous la semaine prochaine à la même heure. Parlez-en à vos amis. Et que Dieu vous bénisse tous.